3, 4, c'est parti. J'ai pas de machin pour faire next dans les slides. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien venir dans un coin et il fera... Merci. J'ai mon clavier. Tu peux faire flèche droite et ça balance la slide. Merci. Alors, attends, mais pas maintenant. Bonjour à tous, je m'appelle Antoine Méric et je vais vous parler des UID, donc on va dire UID parce que moi je dis ça et de toute façon c'est moi qui parle. Les UID, c'est des numéros comme celui qu'on a là. Vous les avez peut-être déjà vus et ils sont partout. Partout, dans un endroit très très large, un nombre varié, un grand nombre d'espaces variés. Vas-y, next. Alors, on va commencer par dire qui je suis, ce que je viens faire ici, pourquoi j'en parle. Donc, je me suis créé un compte Twitter sur lequel je parle de la collecte que je fais des UID. À la fin du talk, vous aurez compris pourquoi j'ai commencé cette base de données et que je me suis mis à ramasser les UID qui sont des numéros. Ça va de 0 à 2 puissance 128, ce qui est un grand nombre. Voilà. Et c'est tout. Vas-y, next. Merci. Alors, j'ai fait un plan qu'on va suivre de haut en bas. On va commencer par les besoins relatifs à ces UID. Vas-y. Ouais, besoin, j'ai été sur Google Images, vas-y, next. Est-ce que vous reconnaissez le sujet de ces images-là ? Il me faut une réponse. On ne sort pas tant que je n'ai pas de réponse. Apollo, tout à fait. Vas-y, next. La première fois qu'on a eu besoin de tirer des numéros au hasard pour ne pas se marcher sur les pieds, c'était dans le cadre du programme Apollo. C'était la première fois qu'on utilisait des ordinateurs aussi. Donc les gars, ils se sont dit, on prend l'heure, on prend un petit numéro, on met un numéro de PC, comme ça chaque PC tire ses propres numéros. S'il ne tire pas deux fois en même temps, ce qu'il ne peut pas faire puisque c'est un seul ordinateur, ça va bien se passer. C'était bien, vas-y, next. Mais ça ne répondait pas exactement à tous les besoins qu'il nous fallait. Donc je vais vous parler des référentiels globaux d'unicité et vous allez comprendre pourquoi ils ont eu ce besoin d'écrire la spécification des UID. Donc, qu'est-ce qu'un référentiel global d'unicité ? C'est un espace de nom, de nommage, qui va permettre de décrire de manière unique, d'où le U, un objet. Par exemple, en France, vous avez tous un numéro de sécu. Ce numéro de sécu, il a une autorité, qui est un organisme français, qui fait des statistiques. L'INSEE, tout à fait. Vas-y, next. Et donc, c'est le premier que j'ai mis, et tous ces numéros de sécu sont stockés dans un fichier qui s'appelle le RNIPP. Est-ce que vous voyez des idées d'autres référentiels globaux d'unicité ? Des choses qui sont identifiées de manière unique par une chaîne de caractères, par un mot. J'ai rien compris. Les plaques d'immatriculation, oui, mais c'est à la fin, donc ne fais pas next. Le génome humain, oui, c'est à la fin, c'est une question surprise, parce que ma femme y a pensé, mais c'est pas ça. Les codes postales, oui, vas-y, next. Donc, les numéros sirènes, qui sont attribués par l'INSEE encore, qui sont stockés dans la base sirène, qui immatricule en France les entreprises. Ce n'est pas des numéros tirés au hasard. On soumet un papier, je pense qu'on paye de l'argent et on reçoit un numéro. Vas-y, next. Les numéros de carte bleue, c'est l'association des banquiers d'Amérique, donc Amérique voulant dire les USA, qui distribue les préfixes des cartes et ça va revenir. Et qui permet de savoir à qui appartient une carte bleue par rapport aux premiers chiffres. Et les banques se débrouillent après les premiers chiffres. Vas-y. Les noms de domaine. C'est une autorité américaine qui délègue ça. Et j'ai mis piège pour le nom du fichier qui contient tous les noms de domaine parce que c'est décentralisé. Y a une racine qui décrit à qui appartient un point. Et .com, .net, .fr, .gouv, tout ça c'est délégué et ainsi de suite jusqu'au bout de la chaîne. Vas-y, next. J'en ai mis d'autres, donc les plaques d'immatriculation que quelqu'un, que je ne vois pas à cause des spots, a nommé. Toi ? Non. Bref, quelqu'un. Non mais on s'en fiche pour Internet. Bref, Passons. C'est l'ANTS, je ne sais plus ce que ça veut dire qu'il est note dans un fichier. Le SIV, j'ai trouvé ça sur Wikipédia et j'ai oublié ce que ça veut dire. Next. Les numéros de téléphone, qui commencent par un indice qui indique le pays. Plus 1, c'est les États-Unis et le Canada. Plus 33, c'est la France. Et il y a plein de plus avec des petits numéros. Et nous, on met la fin à la suite. L'organisme international attribue un préfixe et chaque pays fait ce qu'il veut dans son coin. Mais encore une fois, on ne les tire pas au hasard. Vas-y, next. Les codes barres des produits, bon, celui-là, c'est un peu accessoire. Vas-y. L'ADN, excellent. Le génome humain, c'est unique. Chaque être vivant qui a un génome peut être identifié de manière unique. Après, c'est un peu le bordel pour savoir qui est l'autorité qui les distribue, et encore plus pour connaître le fichier dans lequel c'est stocké, parce que c'est un peu physiquement, dans tout ce qui est de la chimie organique, ça commence à être un peu le bordel. Vas-y, mais next, je ne sais plus ce que j'avais mis comme surprise. Ah oui, les adresses MAC. On va en reparler plus tard. C'est les... Chaque carte réseau, quand elle émet un paquet, on est dans le cas général, hein, les puristes sauront qu'on est d'accord. Chaque carte réseau dispose d'une petite plaque d'immatriculation de 6 octets. 6 octets, c'est 12 lettres hexadécimales. Et ces 6 octets-là, ils sont écrits dans chaque paquet qui part pour que la prise réseau qui est branchée derrière, elle sache d'où ça vient. Et ces 6 octets-là sont construits en prenant les 3 octets qui ont été attribués au constructeur de la carte. Genre Intel, ils ont 3 numéros, Mac, ils ont 3 autres numéros, la NSA a un préfixe à elle, et ensuite, les 3 derniers octets, c'est à la discrétion du constructeur, qui fait plus 1 en général, mais il y en a d'autres qui font autre chose. Les petits constructeurs, aujourd'hui, on leur a donné 4 octets fixes, et donc ils n'ont plus que 2 octets pour mettre des nombres à eux. Bon, c'est un peu accessoire, mais j'avais besoin d'en parler pour la suite. Plus par là. Ok. Un autre référentiel global d'unicité dont je n'ai pas parlé mais dont il fallait que je parle, c'est les OID. Organization Unique ID, je suppose. Ça permet de référencer des organisations, des choses. C'est l'IANA, je pense, qui fait ça. Ils se sont dit, ok, il nous faut une manière de décrire de manière unique ce que c'est que le CNRS par rapport à la cuisine. Et donc, ils ont établi des catégories, ça va de 1 à 9, qui est le premier chiffre, qui disent, on parle d'une organisation, on parle d'un référentiel, on parle de gens. Et ensuite, sous ces catégories, qui seront les premiers nombres, on met une deuxième catégorie, qui va être une organisation d'un pays, après le pays par continent, par numéro de pays. Et c'est pas trop utilisé, à part en LDAP et dans l'industrie hospitalière. C'est pas une industrie, mais bon. Tous les hôpitaux aux États-Unis, ils sont référencés par un OID, comme ça, qui commence par les mêmes numéros pour dire on est aux États-Unis des hôpitaux de tel pays. Et après, ils ont chacun un petit identifiant. Ça leur permet de savoir, je crois, c'est sur les dossiers de santé, par où c'est passé. Chose intéressante, il y a une méthode pour passer des OID aux UID. C'est-à-dire qu'on prend un OID, on le concatène à un UID spécial qui veut dire qu'on prend un OID et on en fait le MD5. Je vous perds, mais c'est un peu fait exprès. Et il se trouve que quand on repasse de cet UID dans le domaine des OID, eh ben on a deux choses différentes qui sont 2.999 qui est l'OID exemple, qui sert pour les exemples. Et quand on le transforme en UID et qu'on revient depuis l'espace des UID dans les OID, on tombe sur 2.25 point un truc, 2.25 vous voulant dire, attention, c'est un UID dont le contenu est la longue suite de chiffres. Donc les deux sont équivalents parce qu'ils pointent sur le même objet, mais ils ne sont pas exactement pareils, ce qui est un peu une sorte de corner case. Vas-y, next. Donc, ce qu'on voulait faire, c'était identifier de manière unique quelque chose. Et le problème que beaucoup d'informaticiens ont, c'est qu'ils veulent le faire maintenant sur leur machine et ils n'ont pas envie d'envoyer une lettre avec accusé de réception à l'INSEE pour avoir un numéro unique à eux pour nommer un fichier, par exemple. Sachant qu'un chemin, genre c2.programfiles, firefox.exe, c'est un peu un identifiant unique. Sur un système de fichiers, ça vous permet de retrouver un fichier. Si vous ouvrez deux fois ce fichier-là, sauf tromperie, vous tombez sur le même fichier. Next. Alors, on veut un référentiel global et on veut aucune autorité. Parce que, par exemple, pour Apollo, il y avait plein de petites entreprises qui étaient au même endroit, qui se mettaient à tirer des numéros dans tous les sens. Et quand on appelle son fichier le 545 et qu'on est 10 000 boîtes, eh ben, y en a deux qui vont se mettre à donner le numéro 545. Et quand on dira « passe-moi la fiche 545 », y aura 5 stagiaires qui vont mourir dans la tâche de récupération de la fiche. Donc vas-y, fais next. Je n'écoute pas vos solutions parce qu'on n'a pas le temps, mais en gros, vas-y. Non, en fait, remets. Parce que j'ai mis la mauvaise slide au mauvais endroit. En gros, l'astuce, ça va être de tirer un numéro au hasard et de le mettre à la suite d'un numéro à nous. Comme ça, on est sûr qu'on ne se confond pas avec une autre personne. Mais le problème du numéro à nous, c'est qu'il faut une autorité. Il y en a qui suivent. Et donc, on retombe, c'est l'œuf, la poule, vas-y, next. Alors, il y a MongoDB, des gens sur Internet, qui ont eu une idée, ils se sont dit, on va en faire, mais on ne va pas utiliser la spec que tout le monde utilise, des UID, on va inventer un truc, super idée. Et ils ont pris 4 octets pour l'heure depuis les années 70, et un peu d'autres octets, vas-y, suivant. Donc ça, c'est 4 UID MongoDB qui ont été tirés à la suite. On repère le timestamp, donc l'horaire écrit en hexa, c'est le nombre de secondes depuis le 1er janvier 70, qui change un tout petit peu sur les 4 qui ont été tirés, mais le début c'est pareil, parce que c'était le même jour, la même année et la même heure. C'est que les secondes qui changent. 3 octets qui sont constants, c'est la machine. 2 octets, comme on est dans le même processus, c'est le même ID, ça ne bouge pas. Et le dernier, c'est un compteur qui fait plus 1. Donc à partir d'un numéro, c'est pas très difficile de savoir dans quel domaine vont se trouver les suivants. On pourrait presque finir par les deviner, ce qui est l'objet de l'outil qui était présenté là. Donc, j'espère que ça va remarcher, parce que là ça marche, mais là ça ne marche pas. Fâcheux. Bon, vas-y, next quand même. Ben voilà. Donc si on prend les petits numéros qui sont à gauche et qu'on calcule le nombre de secondes depuis les années 70, on tombe sur le 2 mai 15h11 en 2018, qui est quand le gars a pondu son truc, donc c'était il y a une petite semaine. Vas-y, next. Encore. Voilà, c'est ce que je vous disais, si on tire un nombre au hasard et qu'on lui met son propre numéro à la suite, ça demande d'avoir chacun un numéro qui n'est pas le même partout. On peut prendre nom et prénom, mais comme me le faisait remarquer Pauline, qui est une des 3 Pauline qu'il y a ici, Pauline ne suffit pas pour trouver Pauline, puisqu'il y a plusieurs Pauline. C'est pareil que place de la mairie, dans un village, vous êtes sûr que vous allez tomber sur la mairie. Dans une communauté d'agglos, bah, en fait, ce sera peut-être plus la mairie. Et en Iran, bah, il n'y a pas de place de la mairie. Bon, vas-y, next. On en parle après, parce que j'y vais bientôt, donc je ne veux pas nous soucier. Vas-y, next. Alors, pour résoudre le problème, les ingénieurs de l'Internet Engineering Task Force, IETF, se sont dit, on va faire une spécification. Next. Ouais, j'ai pris plein d'images parce que je me suis dit que si je vous mettais que du texte, ça allait pas bien se passer. Next. Donc ça, c'était le début de la spec et en vrai, on s'en fiche. Voilà tout ce que vous avez besoin de voir pour comprendre ce que c'est qu'un UID. Vous avez ici les 5 versions utilisées sur les 6 qui existent des UID. Le premier, c'est un version 0. La spécification est simple. Elle dit, on met tout à 0, c'est le 0. Donc ça c'est fait, le 1 on en parle plus tard, le 3 et le 5, on écrit 3 ou 5, ah oui je dis 0, 1, 3, mais en fait c'est ici, dans cette colonne là, que la version est indiquée, et que ceux qui n'avaient pas compris pourquoi je parlais du 0 et du 1, voilà, c'est là, c'est ici. Le 3 et le 5, on prend une donnée, on en fait un hash cryptographique, le 3 c'est un MD5 et le 5 c'est un SHA-1, on s'en fiche un peu, et ça nous permet à partir d'une donnée d'avoir un numéro unique. Si la donnée change, le numéro change. Et les 4, c'est un peu comme le 3 et le 5 où il y a une donnée qui fait changer la chose, sauf qu'à part le numéro 4, tout est aléatoire. Vous vous doutez bien que je mens, sans ça je n'aurais pas mis le 9 et les A en gras. mais on en parle plus tard. Et les versions 1, on en parlera plus tard. Les versions 2, j'en parlerai plus tard pour vous dire que je ne vous en parle pas. Vas-y, next. Version et variante. Il y avait deux numéros en gras. Le numéro de version que vous avez tous vu, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5. Il est facile à voir quand vous en verrez dans l'espace de l'Internet, dans une URL, dans un fichier, que sais-je. C'est le premier numéro du bloc du milieu. Enfin, vous l'aviez vu avant et vous allez voir plein d'autres UID. Il y a aussi un numéro de variante. Alors là, ils sont dit dans la spec, on va être créatif. Au lieu de prendre bêtement le nombre que ça représente en binaire, genre 0, 1, 2, 3, 4, 5, ils avaient pris 0, 1, 2, 3, 4, 5, genre 1 voulait dire 1 et 2 voulait dire 2. Et là, ils se sont dit, on va dire que la variante, c'est le nombre de bits défini à partir du nème. Ce qui est un truc absolument affreux à calculer de manière programmatique. Et ça fait que sur les 16 valeurs possibles, ils ont dit que quand il y avait 3 bits de défini, mais pas 4, 3. C'était pour le futur, que 2, c'était Microsoft, donc il y a 2 valeurs CED qui veulent dire que c'est quelque chose de spécial à Microsoft. Il y en a 4 pour dire que c'est l'ARFC 4122 qui est le nom de la spécification, pour dire je suis bien valide, et le reste, c'est réservé. Donc on ne sait pas. C'est complètement inutile et ce n'est pas utilisé. Vas-y, next. Voilà. Soit on respecte l'aspect et on dit qu'on respecte la spécification, à savoir tout va bien. Soit on la respecte, mais on déclare qu'on ne la respecte pas, en mettant notre numéro de variante à autre chose que je respecte la spec. Donc si on déclare qu'on ne respecte pas un truc, on ne le respecte pas, ce qui fait qu'on tombe là. Ça n'a aucun sens et c'est parfaitement inutile. Vas-y, next. Voilà, donc j'ai fait une échelle scientifique des niveaux d'utilisation logique de la spécification. Donc avec en haut, bêtement, on tire des UID V1, on respecte la spec, bon, tout se passe bien, on est chez Microsoft dans les années 90. Les deux, c'est Microsoft qui disent « Ouais, mais nous, votre spec, attendez, on en avait déjà tiré, donc on va dire que quand ils commencent par ça, au 12e octet, ils sont à nous. » Ok. Après, il y a Microsoft qui s'est dit « Ah ouais, mais en fait, c'est bien. Du coup, c'est du Microsoft, mais ça respecte la spec. » Et il y a des gens qui tirent carrément tous les numéros au hasard. Donc peut-être que le numéro de version sera 1, 2, 3, mais en fait, tout sera aléatoire. Donc ça sert pas d'essayer de décoder des choses. Le 4, donc tout est aléatoire. Sauf que les gars, ils se sont dit « On prend le 4 pour faire genre que tout est aléatoire. » Mais dans certains octets, puisque c'est censé être aléatoire, on fait un peu ce qu'on veut, genre sur le dernier chiffre, on va mettre une info à nous. Ça, on en parlera un chouïa. Et le dernier, voilà, c'est pour dire que la spec, c'est n'importe quoi. Vas-y, next. Donc les 0, 3 et 5, j'en ai déjà parlé. Le 4 aussi, tout est aléatoire. Vas-y, next. Vous savez ce que ça veut dire, aléatoire? Quelqu'un ne sait pas ce que ça veut dire? Parfait. J'ai trouvé dans ma quête de ramassage des UID un compte Twitter qui s'appelle Every GUID. Alors GUID, c'est un peu un alias, il reste des places sympas là si vous voulez, c'est un peu un alias de UID, ça veut dire UID. Et ce compte-là, il a fait une petite blague en disant je vais les tweeter tous un par un, sauf que comme il y en a 2 puissance 128, ce qui est un grand nombre, eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà, vas-y, next. Parce que je m'étais abonné, et puis bon, il en tweet un toutes les 10 minutes, alors moi, j'ai pas que ça à faire. Les UID V1, les meilleurs, et ceux qu'on fait que je suis là pour vous parler de choses. Parce que bon, vous dire que j'ai ramassé sur Internet des nombres aléatoires, vous allez me dire, t'es mignon, mais tu vas voir ailleurs. Hein. Tu restes sage. Les UID V1, ils ont le bon goût de contenir l'heure, un truc, et l'adresse MAC. Ce qui a le bon goût de nous permettre de savoir énormément de choses. Vas-y, next. Non, en fait, retourne avant. L'heure. Elle est contenue dans le premier groupe qui s'appelle Time Low, le deuxième qui s'appelle Time Mid, et le troisième qui s'appelle Time High and Version, parce que le premier chiffre de ce troisième groupe, c'est un 1 pour dire que c'est un UID V1. Donc il y a à la fois le temps et la version dans ces trois groupes-là. Vas-y, next. Donc, qui reconnaît ce monsieur, sachant que je vous parle de temps? Oui. Grégoire 8, tout à fait. Ah, désolé, il a été plus rapide, mais il n'a pas levé la main. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Bon, Grégoire VIII, vas-y, next. Qui s'est dit en 1582, bon les gars, on a un problème avec le calendrier julien par Jules César, c'est qu'il se décale, il n'a pas d'année bissextile, ou enfin je sais plus, il y a une autre conf qui va parler de temps, donc je vous spoil pas trop. Mais en gros, ça, c'est la date de début du calendrier. Microsoft, ils ont dit, c'est pratique ton machin, mais il cycle tous les 400 ans, donc nous, comme date de départ, on va plutôt prendre le 1601, 0101. Et depuis le Berkeley et que Unix existe, on prend 1970, 0101, qui est la date de référence, et c'est sympa parce qu'on peut compter le nombre de secondes depuis ça, et on se fait pas chier à compter des trucs un peu plus ésotériques que des secondes. Depuis le 1er janvier 70, ça permet de faire des calculs assez simples. Vas-y, next. Alors, quiz. Dans la spec des UUID V1, quelle est l'unité de temps dont ils se servent pour différencier le moment de l'adoption du calendrier grégorien, donc le 12 octobre 1582, date pratique, avec la date où l'UUID a été créé? Une nanoseconde, 100 nanosecondes, une milliseconde, une seconde, 6 minutes à feu doux sans ajout de matière grasse et une heure. Une seconde, non. Pardon ? 100 nanosecondes, oui. 100 nanosecondes, parce qu'ils se sont dit, on va pas prendre un truc rond, on va prendre quelque chose qui nous oblige forcément à faire un fois 100 ou un divisé par 10. Ça va bien se passer. Vas-y, next. Ça s'est pas bien passé. Vas-y, next. Par exemple, dans la RFC 4530, je crois que c'est la RFC de LDAP, donc c'est une autre RFC, c'est le même groupe de gens qui écrit des standards, et ben ils se sont gourés. Ils ont défini un UID qui est là-haut, c'est un version 1, vous le voyez parce qu'il y a un 1 au début du troisième groupe. Et bah, en fait, ils tombent en 1617 parce qu'ils n'ont pas mis le nombre d'intervalles de 100 nanosecondes depuis le 12 octobre 1582 parce que c'est complètement con, mais qu'ils ont mis le nombre de secondes depuis le 1er janvier 70. Bref, du coup, ce n'est pas en 1617, mais en 2004, ce qui fait que sur mon site, dont je vous parle après, j'ai mis les trois dates de départ, 1582, 1600 et 1970. Vas-y, next. Voilà le calcul à faire. Vous prenez le 15 octobre, j'ai dit le 12, mais c'est le 15. Vous y ajoutez un delta du nombre de millisecondes. Donc c'est les 100 nanosecondes, bref, on divise par 10 000. J'ai fait ça au pif jusqu'à ce que ça marche, hein. J'avais aucune idée du truc exact. Alors la seule chose que vous pouvez reconnaître sur ces slides, c'est la répartition des numéros qui sont là-haut dans le numéro qui est là. On commence par 1 des 0 qui sont tout à la fin, on met 7 DEC qui sont là et on met le reste qui est au début. C'est pour des raisons historiques de taille de bits sur les processeurs, on n'en parlera pas. Mais c'est une question historique intéressante de se poser la question comment sont alignées réellement en mémoire mes données. The next. Les dernières choses qui nous restent, c'est un identifiant qui est censé être tiré au hasard à chaque démarrage de la machine, c'est un petit numéro qui change à chaque fois, et l'adresse MAC. Ici, à la fin, c'est 00 à 0, c'est 9, qui nous permet de retrouver de manière unique un ordinateur. Vas-y, next. Transition. Next. J'ai fait un site web sur lequel je me suis mis à noter tous ces UUID. Je n'ai pas fait de slide pour vous dire pourquoi je le faisais, mais c'est parce que dans la vie, je fais de la réponse sur incident et que parfois, j'ai des immensités de lignes qui décrivent ce qui s'est passé sur un ordinateur à un instant T. Et entre firefox.exe, dont je vais pouvoir déduire que c'est Firefox, et autre explorer.exe, j'ai des UUID. Ces petits numéros qui, si on n'a pas Google sous la main ou autre chose, eh ben, on ne sait pas ce que c'est. Donc je me suis dit qu'il nous manquait une liste globale de tous ces UUID. Donc j'ai fait la liste globale de tous les UUID. Il m'en manque encore, hein, puisqu'il y en a de puissance 128 et que c'est très très gros comme nombre. Moi, là, j'en ai 60 000 et ça correspond à ceux qui ont été utilisés. Parce qu'il faut quand même qu'ils aient été utilisés à un moment pour avoir un intérêt. Vas-y, next. C'était pas dur, et s'il y en a qui aiment bien faire de l'informatique chez vous, sachez que moi ça m'a pris 200 lignes, 300 lignes de Python, et c'est que du copier-coller depuis Django.org, et enfin vraiment c'est pas dur de faire un site web aujourd'hui, lancez-vous dans ce genre de petit projet. Moi j'avais fait ça entre le 24 et le 31 décembre parce que j'avais que ça à faire, et je suis bien content et je vous recommande de faire pareil. Vas-y, next. J'ai mis une fonctionnalité de recherche qui me permet de taper un mot et qui me sort tous les UUID que j'ai dans ma base de données qui correspondent à un mot en question. Là, on a documentation parce que j'ai tapé documentation et on voit que tout ce qui ressort sur mes 60 000 UUID, c'est des numéros un peu bizarres qui ont 0 ici, donc c'est pas normal parce que normalement, le seul version 0, c'est que des 0. Mais ils ont le C ici qui veut dire que c'est spécial Microsoft, donc on a le droit. Au-dessus des versions 1, je les ai mis en vert, 3 et 4, en jaune et en violet. Vas-y, next. Transition, c'est un jeu de mots parce que c'est des transistors. De quoi va-t-on parler ? C'est une devinette. De Wi-Fi ? Non, mais on n'est pas loin parce qu'on parle de Mac. Le Wi-Fi, c'est 802.11 parce que c'est une dérivation du standard 802 et donc on parle d'adresse Mac. Le Wi-Fi utilisant des adresses MAC pour savoir où vont les paquets. Vas-y, next. Chaque UUID contient une adresse MAC. Donc si je cherche sur mon site web cette adresse MAC qui correspond à une adresse créée par VMware quand on installe une machine virtuelle, et ben je tombe sur tous les gars qui avaient installé VMware sur leur PC, qui ont cliqué sur générer un UUID, je ne sais pas où, chez Microsoft. Quelque chose a pioché la première carte réseau, qui était celle de VMware, et bam. Ils sont là. Donc je sais qu'en 2002, il y a un gars qui a généré à 23h44 en août, le 15 août, donc ce n'était pas en France, tous ces petits numéros-là. Vas-y, next. Et ça, ça m'a permis de découvrir énormément de choses. Par exemple, celui-là, c'est celui qui m'a vraiment épaté. Il y a un site internet qui s'appelle générer-uid.com en anglais. Bon, bref, c'est le site sur lequel on tombe quand on tape sur Google comment je fais pour générer un UID. Et il se trouve que c'est un petit gars que donc je lui ai envoyé un mail, il m'a dit ouais machin. En fait, tout tournait sur un Spark classique, mais comme ça consommait trop d'électricité, j'ai mis un Raspberry à la place pour mon petit site, mais j'ai mis la même adresse MAC pour des raisons historiques. Et il se trouve que comme moi, je suis capable de corréler les adresses MAC, j'étais capable de dire, ah ben, du coup, tout cela, ils ont été générés en passant par ton site, mec. Notamment, donc, les exemples sur son site, qui sont chronologiquement les premiers à avoir été faits, forcément, ça va être lui qui va avoir testé, il a mis ça sur ses petites pages web. L'exemple de Wikipédia numéro 1, du bordel de chez Microsoft, Google aussi, qui a mis des exemples d'applications Android, ils ont été piochés sur ce site-là. Et ça, je le sais, parce qu'il y a un des bouts de l'UID V1 qui vient du gars qui vient de son SunSpark. Ce qui, moi, je commence à trouver ça sympa, le nombre de liens qu'on fait juste à partir d'un petit numéro. Le gars m'a dit qu'il ne gardait pas la liste de tous ceux qu'il a générés, bien que ça aurait pu être intéressant. Enfin bon, vas-y, next. Est-ce que vous reconnaissez ceci ? Oui ! Je mens pour le public qui n'est pas là, c'est qu'en fait, personne ne reconnaît. C'est le virus Mélissa. En fait, ce n'est pas écrit Mélissa, donc c'est normal qu'on ne reconnaisse pas. Si, ici. Et ça contient un fichier Word. Et les fichiers Word, ils contiennent des sous-objets, du XML, et à l'époque, c'était directement une sorte de dump mémoire de Word. Vas-y, next. Et dans ce fichier Word, il y a des UUID. Donc, il y a à moitié des UUID qui viennent de chez Microsoft, qui sont des trucs standards pour dire ce sous-ensemble-là, ça va être une macro pour exécuter du code. Et aussi des UID qui ont été générés sur le PC du gars. Quand Word s'est dit, pop, 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 garçon, tu me crées une nouvelle page égale page unique, donc je te tire un UID. Donc, je prends l'heure et je prends ta carte réseau, je le mets dedans. Le gars, il a envoyé ça dans un mail, ça a fini sur le bureau de quelqu'un au FBI, avec son adresse MAC dedans. Sauf qu'à l'époque, aux Philippines, on se connectait en branchant directement son PC sur Internet, avec sa carte réseau. Et bah, il a fini en prison, le monsieur. C'est l'exemple qui est cité sur Wikipédia comme problème de vie privée relié à l'utilisation des UID version 1. Comme on va le voir plus tard, ils sont de moins en moins utilisés. Vas-y, next. Donc ça, c'est trois exemples qu'on ne verra pas là, mais si vous allez voir les slides plus tard, vous pourrez les voir. C'est des gars chez Microsoft. Vas-y, next. Je crois que j'avais des exemples. Ouais, je vous raconte. C'est trois gars. Je sais, parce que j'ai collecté tous les UID de chez Microsoft qui traînent à droite, à gauche. Et il y en a un qui bossait sur des affaires de musique. Parce que tous les UUID qu'il a générés en 92, ils s'appellent titre de la chanson, style de la chanson, rythme, vitesse, tout ça. Il y en a un autre, il a fait du HTML, parce que tous les UUID qu'il a générés s'appelaient HTML. Et chose intéressante qu'on voit peut-être ici, voilà, pour Direct 3D, le gars, donc toujours sur son même PC, il a commencé en février 96 à pondre tout ça. En juin 96, donc 6 mois après, Direct 3D sort officiellement. Et en novembre, ils disent « Ah merde, on a oublié des trucs » et ils rajoutent ça. Et ça, on le sait grâce aux UID qui contiennent un horaire. Et en plus, moi, je peux chercher tout ce qui s'appelle Direct 3D. Donc, il se trouve que c'est même pas toute la même adresse MAC à partir d'ici. Donc, en fait, c'est un autre gars ou un autre PC. Donc, c'est peut-être le même gars avec un nouveau laptop parce qu'il est arrivé. Enfin, cela dit, comme c'est dans les années 90, c'était sûrement pas un portable. Vas-y, next. Voilà, donc utilisation légitime. Vas-y, next. Next encore. Jeu de mots, c'est Pascal Legitimus pour les jeunes. Utilisation légitime de UID. C'est utilisé, je vous l'ai dit, dans les fichiers Word pour identifier des parties. C'est utilisé dans les sites web pour identifier de manière unique des utilisateurs, des fichiers pour ne pas se perdre. Et la plus grosse utilisation qui en est faite, et celle que je rencontre un peu tous les jours moi, dans mon travail, c'est DCE RPC, DCE je ne sais plus, RPC Remote Procedure Call. Ça veut dire qu'on est capable d'appeler des fonctions sur un autre PC par la magie de Microsoft. C'est-à-dire qu'on se connecte à un PC, on lui dit je veux parler à tel serveur de fonction, en lui donnant un numéro dégueu, et il est capable tout seul de retrouver exactement celui qu'il faut, parce que l'UID est unique. Par exemple ici, on en a un qui est assez long. Celui-là, il correspond à la même chose sur toutes les versions de Windows, ce qui est vachement pratique quand on veut que ça marche sur toutes les versions de Windows. Vas-y, next. Next encore. Par exemple, ça permet d'aller taper sur des fichiers .exe, donc des programmes, via une API qui a le bon goût de nous permettre, à travers le réseau, d'être certain qu'on va appeler une fonction en particulier, dans un binaire en particulier, et on peut la retrouver grâce à son UID. Donc il y a eu une faille en 2007, je crois, d'un gars qui a trouvé une faille dans DNS.exe. Et il se trouve que DNS.exe, on peut aller le chatouiller en passant par le réseau, par RPC, en donnant son UID, et pif, on peut lui donner un truc quand on lui fait manger. Ça se passe mal et on prend la main sur le Windows. Vas-y, next. D'autres choses sympas, des vraies utilisations du UID, la spécification Bluetooth. Il n'y a pas de mention de Harald Bluetooth, qui est le nordique qui a donné son nom au standard dans le fichier PDF de 300 pages qui décrit ce que c'est que Bluetooth. Mais en tout cas, il y a une adresse MAC. Et les gars, ils ont dit, on va prendre un UUID de base, qui est là. Donc une adresse MAC et un petit peu de bazar avant, qui déclare d'ailleurs que c'est un version 1, alors que ce n'est pas un version 1. Et on va ajouter des numéros, par exemple pour dire que ce qu'on va envoyer en Bluetooth, c'est l'icône d'une URL, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire, ben, on prend la base et on lui met un C ici, un B, un A, donc il y a plein de petits codes pour dire je transmets le nombre de battements du cœur par minute, je transmets l'altitude, la température, ils se sont dit ça va bien trouver une utilisation, vas-y next. Et l'autre c'est BLE, Bluetooth Low Energy, donc c'est un peu comme du Bluetooth, mais l'adresse MAC avait changé. Donc c'est un autre ensemble du ID, pour ne pas confondre, qui utilise un autre numéro. C'est utilisé sur Android pour définir les effets audio, pour dire je veux mettre du reverb sur mon son, au lieu d'utiliser le mot reverb, on utilise un UID pour être sûr qu'on tombe sur ce qu'il faut. Et fun fact, 4 services qui utilisent du Bluetooth Low Energy sont liés à un sextoy, donc si on veut appeler la fonction Touch Channel, eh ben on utilise exactement celui-là. Ce qui fait que moi, si dans une investigation sur un PC, je tombe sur un bout de mémoire, je ne capte rien à ce qui se passe, il n'y a aucun mot, mais il y a ce numéro-là, je sais par où ça se passe. Vas-y, next. Utilisation bizarre. Next encore. Plus bizarre. Vas-y, next. Microsoft, qui ont pondu plusieurs milliers du UID, ils se sont dit on va mettre des endroits où il n'y aura que des UID, mais il y a des trucs, on va oublier des chiffres. Donc ça ne sera pas des UID parce qu'il manque des lettres à la fin. Donc j'en ai trois qui ont leur valeur et leur nom en dessous, où ils ont oublié des zéros à la fin. C'est le bordel. Parce que ça veut dire que si on part du principe que c'est des UID, et bah, on manipule des données qui sont trop grandes et qui ne vont jamais trouver ce qu'on est censé trouver. C'est un peu n'importe quoi. Et il y en a trois, je les ai trouvés parce que ça faisait bugger mon code, et donc je me suis dit pourquoi ça fait bugger, et en fait c'est parce que les gars, bah, ils se sont dit on va zapper ça, ils ont oublié des zéros. Voici next. Tout ça c'est un peu bizarre, Adobe Acrobat. Tous les installateurs, les fichiers MSI sur Microsoft Windows, donc quand on installe un programme et qu'on le désinstalle, ça passe par un UID. Et Adobe Acrobat, ils se sont dit, nos UID, on ne va pas les tirer au hasard, ni tirer des UID V1, on va écrire Acrobat en langage lit. Donc on prend AC, ensuite on tape RO sur notre clavier parce qu'il n'y a pas de RO dans les 16 caractères hexadécimaux, BA, 8T, machin. Et donc si vous voyez ça, ce Acrobat écrit un peu bizarrement, ça veut dire que c'est un des composants de la suite Adobe qui est installé sur un PC, et le reste c'est la langue, la version exacte, bref, passons. Vas-y, next. Next encore. Next encore. Encore, parce que c'est stupéfiant. Les UID V1, qui sont toujours utilisés parce qu'ils ont été embarqués dans le code des OS Microsoft, et quand on crée un fichier lien, un fichier LNK sur Microsoft Windows, genre on dit envoyer vers le bureau, entre parenthèses, créer un lien, ça crée un fichier LNK qui contient un UID, parce qu'à l'époque, ils se sont dit, si on héberge un lien sur un partage réseau, genre slash slash un serveur slash un fichier, mais que le fichier il change de place, et ben comment on le retrouve puisque le chemin n'est plus ne marche plus, et ben ils se sont dit on ajoute un UID, et comme ça on dit au serveur oui mais le fichier il est plus là mais il avait un UID et tu sais peut-être s'il est ailleurs, s'il a été bougé. C'est très sympa, mais du coup ça fait que si on fait un zip dans lequel on met un fichier lien créé sur un PC, et bien après, on retrouve le fichier lien, on retrouve votre adresse MAC et l'heure à laquelle vous l'avez fait. Ce qui est un peu une surprise, et ça peut être une mauvaise surprise. Vas-y, next. Exemple, on ne voit rien, mais c'est ce que je viens de vous dire. Next. Autre découverte sympathique. J'ai fait ma grosse base de données, j'ai mis plein de numéros dedans, et j'ai découvert des trucs. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oui, vas-y, next. Je suis parti en quête des UID, donc j'ai tapé quête sur Internet. Il y a un gars qui s'appelle Jean-Philippe Baguel, qui travaille chez Microsoft. C'est une des découvertes que j'ai faites, parce que quand je ramasse mes numéros, je leur attribue une petite documentation, parce que juste savoir qu'un numéro existe, ça ne m'intéresse pas. Tous les numéros entre 0 et 2 puissance 128 existent. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un peu d'infos sur eux. Où est-ce qu'ils ont été utilisés ? Est-ce que c'est un truc de sextoy ou c'est un truc HTML ? Et il se trouve que celui-là, son nom, c'est le nom complet de l'utilisateur, par exemple Jean-Philippe Baguel, qui est tapé quand l'utilisateur se crée un compte. Et si on cherche sur LinkedIn, Jean-Philippe Baguel, maintenant, il bosse au Texas, il est toujours chez Microsoft. Mais dans les années 80, d'ailleurs, exactement, non, parce que c'est en version 4, donc il a été tiré au hasard. Dans les années 80, il a dû générer ça. Vas-y, next. Je vous passe le fait que pour trouver tous ces UID, il y en a qui traînent sur des listes sur Internet, il y en a qui traînent sur des pages web, c'est un peu galère à extraire. Et la plus grosse mine du UID, elle est dans un fichier qui s'appelle uid.lib, qui est disponible dans les sources de Microsoft qui publient pour qu'on puisse faire des programmes pour eux. Et c'est une archive au format AR, que tout le monde connaît, qui contient des objets, des fichiers au format objet. Donc le format objet, format mieux nommé du monde, puisque ça ne veut rien dire. Et donc tous ces fichiers objets qui sont contenus dans cette archive AR, c'est des sortes de, je ne sais pas, des exécutables, mais qui contiennent des noms et des UID. J'ai essayé de les extraire, c'est un peu complexe, et pour l'instant, je n'ai pas trouvé le courage. Vas-y, next. Exemple de pourquoi c'est le bordel. Dans ces objets-là, toutes les sections s'appellent .rdata, et il y en a 500. Et du coup, il va falloir que je me tienne, moi, de mon côté, une liste des sections, que je prenne leur nom, que j'aille trouver les sections de données, que je dise, attends, ce nom-là, c'est sûrement cette valeur-là. C'est l'enfer. Vas-y, next. Toi aussi, participe. Oui. En plus de ma quête d'archives, quand j'ai été creusé dans les fichiers uid.lib, quand j'ai été sur Internet, trouvé à droite à gauche, j'ai fait un petit bout de code en PowerShell que tout le monde peut lancer sur des machines Windows, de détonation de malware ou des vrais. Et ça ramasse tous les UID qui traînent et ça les pousse sur mon site, ce qui me permet de faire grossir ma base de données. Donc je vous invite à participer. Si vous avez un PC, notez ces lignes de commande-là, vas-y next. Et faites-moi confiance. Vous voyez, sur Virus Total, ils disent que c'est plus 24 en communauté. Ça veut dire que ce n'est pas un virus. En vrai, ça ramasse juste des choses et ça les pousse sur un serveur web. Ce qui est un comportement un peu bizarre pour un programme. C'est pour ça que c'est marqué 80% malveillant. Vas-y, next. Voilà un exemple de bout de code que j'ai mis dans ce programme-là, qui est en fait un script PowerShell embarqué dans un .exe. Je me promène juste dans toutes les applications com et je chope leurs UID. Vas-y, next. Là, je récupère juste dans un chemin du registre tous les installateurs et je chope leur UID. Les installateurs, c'est MSI exec, espace un truc, espace un numéro. Et ça, c'est utilisé pour désinstaller un programme de manière unique. On tape msi exec slash désinstall et un UID, au lieu de taper Firefox ou un truc un peu vague. Et donc moi, j'ai fait le code pour les ramasser. Vas-y, next. Qu'est-ce que c'est que ça? Les trucs active setup qui sont installés. J'ai trouvé des UID, je les ai ramassés, j'ai aucune idée de ce que c'est. Vas-y, next. Vas-y, next aussi, on s'en fout un peu. Encore. C'est juste pour que quand on tape sur Internet, on finisse par tomber sur les slides si on tape ça. Il y a un autre gars qui a fait ce travail-là, mais lui, il a pris une autre approche. Il fait de la programmation et il a trouvé plein de constantes qui sont définies dans le code source de Microsoft et il voulait toutes les extraire. Parce que savoir que ouvrir un fichier, c'est 1 et fermer un fichier, c'est 2, ça demande d'aller regarder dans le code. Donc, il a fait un parseur pour les fichiers de code source de Windows et il a ramassé plein de choses. Des petits numéros et des vrais UID. Donc, j'en ai mis un exemple là. Je lui ai demandé, hey, tu veux pas me filer ta liste d'UID que je la mette dans ma base? Il a dit, bah non, et ben voilà. J'ai essayé de faire ça aussi, mais c'est une tâche complexe que de parser ces fichiers-là parce que c'est écrit un peu n'importe comment. Next. Je vous l'ai déjà dit, il y a l'horaire dans les UID qui ont été tirés. Je sais qu'ils ont été fabriqués chez Microsoft à l'époque parce que c'est uniquement du Microsoft que j'ai récupéré. Ce qui me permet de savoir que le 15 mars 1999 à 22h, c'est UTC, donc je pense que ça correspond à des horaires honnêtes côté US. Il y a un gars qui a travaillé sur WMI et il a créé tous ces petits numéros-là. Et on peut voir qu'il met une minute ou deux par UID. Donc il y a un gars aux États-Unis le 15 mars 1999, qui a tapé un par un tous ces petits numéros ou qui a dit next et qui a tapé un peu de texte. On pourrait déduire quand il a commencé, quand il a terminé, s'il a été prendre des pauses, s'il en a eu pour 3 semaines ou juste pour 3 jours. Et en tout cas, il a fait tout sur le même PC. C'est une des choses intéressantes que j'ai découvert. Vas-y, next. Et la généralisation de ça, c'est ce graphe-là. En vertical, on a l'horaire. De 0h à 24h. Et en horizontal, on a la date. On peut voir qu'il y a une sorte de trou entre 4h et 12h, ce qui correspond à quand il fait nuit aux États-Unis, et une sorte de nuage au-dessus, ce qui veut dire que Microsoft génère ses UID pendant la journée aux États-Unis, ce qui semble normal. Bon, après, il y a quelques exceptions, mais bon. C'est à peu près tout ce qu'on peut voir là-dessus. Hein. C'est assez vague. Vas-y, next. Ça, c'est le nombre d'UID V1 que j'ai. C'est tout ce que j'ai, enfin, ce que j'avais il y a 2 mois. Mais organisé par date et strictement croissant. Donc on peut voir que tous les UID V1 que j'ai, ils ont surtout été générés entre 94, qui est l'édition de la spécification. Il y en a un ou deux que j'ai vus qui prétendent qu'ils sont antérieurs à la spécification. C'est un mensonge. Dans les années 2000, ça s'est arrêté. Il y en a encore un petit peu qui ont été créés, mais vraiment, la grosse part de tout ce que j'ai, c'est 90-2000. Vas-y, next. Si on prend l'horaire qu'on fait modulo 7 jours et modulo 24 heures, on a le graphe, en fonction des jours de la semaine et des horaires de la journée, de quand est-ce qu'ont été créés tous les UID V1 que j'ai. Donc, ici et là, à mon avis, ça correspond à samedi et dimanche, parce que c'est un peu plus vide que le reste de la journée. Et encore une fois, entre 4 et 12 heures, ça doit correspondre à la nuit aux États-Unis, parce qu'il y a une sorte de creux. J'ai extrait ça de ma base, parce que j'avais plein de numéros avec de l'heure, et donc j'étais très très content. Vas-y, next. La blague, c'est que comme on génère toujours des UID V1 à certains endroits de Microsoft Windows, eh ben, on peut toujours extraire les horaires de travail de quelqu'un à partir d'un Word, à partir d'un truc, à partir d'un fichier PDF. Ça traîne un peu partout. Et c'est encore utilisé chez Microsoft. La vieille astuce, donc là en surligné en rouge, on ne peut absolument pas voir, mais en gros, quand ils génèrent plusieurs UID V1 à la suite, ils font plus 100 nanosecondes. Alors que ça ne prend pas exactement 100 nanosecondes. Mais ils font plus 1, plus 1, plus 1. Ce qui peut permettre de tracer encore plus sur une même machine ce qui a été généré dans quel ordre. Vas-y, next. Un autre truc sympa, que Cure53.de, c'est une équipe de gars qui sont très très bons en sécurité informatique, ont trouvé, c'est qu'il y a des fichiers HTML qui, quand ils sont affichés par Outlook, par un navigateur web, même si on dit ne télécharge pas les images pour protéger ma vie privée, il y a certaines balises bizarres qui provoquent des appels réseau, même si ce n'était pas prévu qu'il y en ait. Et parmi celles-là, il y en a deux où on crée un objet et on lui dit que son class ID, c'est un certain UID et qui provoque une fuite de données. De un, c'est intéressant parce que ça permet d'envoyer un mail piégé à une personne. Si elle l'ouvre, on est sûr que ça va générer un appel réseau tellement il y a de fonctions différentes qui provoquent des appels réseau et donc qui font fuiter le fait que le mail a été lu. Mais d'autre part, ça veut dire qu'il y a une manière en HTML d'aller chatouiller un binaire spécifique via son UID. Et ça, aux dernières nouvelles, avec DNS.exe, c'était une prise de contrôle à distance du PC. Donc, moi, j'ai envie de dire stop. Après, ça ne me regarde pas, quoi. Mais bon, danger. Vas-y, next. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, je suis tombé. Donc, j'ai fait tous les exemples d'UID dans tous les programmes du monde. Enfin, genre Python, Java et ce genre de langage de programmation. J'ai été regarder la liste des exemples d'UID parce que tous, ils savent gérer des UID qu'ils prennent. Il y en a qui prennent le standard, l'exemple de l'ITU qui est la spécification, enfin l'organisme qui a publié la première spécification avant que ce soit fait par l'IETF. Bon, très bien. Et il y en a des petits malins qui se sont dit on va faire genre qu'on ne l'a pas pris parce qu'on est différent. On va mettre un 4 à la place du 1 et mettre un 5-5 à la place du 1-1. Je le sais, vous le savez, tout le monde s'en fout. Mais comme ça, tout le monde le sait. Vas-y, next. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, les fonctions interdites. J'ai découvert plein d'endroits épatants dans ma recherche d'UID parce que c'est utilisé partout, parce que c'est utile. Et ça m'a emmené dans des endroits où des grosses boîtes ont été forcées de documenter ce qu'elles étaient en train de faire. Et ça fait que je suis tombé sur ce fichier de chez Microsoft qui dit « N'utilisez pas, attention danger, ces fonctions sont interdites ». J'ai bien aimé et on ne peut pas lire, mais vas-y, next. J'ai trouvé que quand on tape ça dans Windows R, enfin c'est un truc sur Microsoft, ça provoque l'ouverture d'une fenêtre bizarre que j'avais jamais vue, qui s'appelle le Command Folder. J'ai rien capté à ma life, genre quand je cliquais sur le bouton, ça change la forme du truc, comme quand je clique là-haut. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et après, j'ai cliqué sur ça. Alors pas celui-là, vous allez voir, ça boucle. Allez garçon, donc open, lui il se passe rien, l'autre on sait ce qui se passe, et lui, il m'a emmené dans un autre endroit, avec, je pouvais invoquer, couper, coller, j'ai pas capté, et là je me suis dit, oh merde, je suis en train de couper, le programme coupé, j'ai rien compris, j'ai aucune idée d'où je suis, il y a des UID partout, et j'ai trouvé un bug qui permet de faire crasher Explorer.exe via ce genre de truc. Ils m'ont dit que ce n'était pas un souci de sécu. Mais vraiment, je me promène dans des endroits dont j'avais aucune idée. Vas-y, next. Ça m'a permis de découvrir qu'il y avait un Easter Egg sur Windows 95, un peu comme le God Mode, qui est en fait juste un UID spécial, désolé, de Microsoft 7. Ça, quand on crée un dossier qui a ce nom-là et qu'on l'ouvre, ça provoque la même action que j'avais fait sur la slide d'avant quand on tape un truc bizarre et que ça ouvre une fenêtre étrange. Et quand on tape ce numéro spécial-là, ça lançait la démo qui dit Windows 4.95, voilà le nom de l'équipe. Alors il y avait John, il y avait machin, qui sont sûrement les noms des gens qu'ont tiré les UID d'avant. Hein, parce que c'est Windows 4.95, ça correspond à la bonne période. Vas-y, next. Voilà, qu'est-ce qui se passe après, dans l'avenir, et non pas le futur, parce que le futur, c'est un temps de conjugaison. L'avenir, c'est une période dans le temps. Le thème, c'est le langage, tout ça, donc c'est bon, je suis dans le thème. Vas-y, next. Ça, c'est le nom global du ID que j'avais dans ma base. Donc on peut voir que j'ai commencé au 1er janvier et que j'ai fait des gros ajouts. Au fur et à mesure que je tombe sur une liste, je tombe sur un nouveau nid où il y en a dans Microsoft Windows ou ailleurs, je les ajoute et donc ça fait grimper le nombre total. Vas-y, next. Où va-t-on? Alors ça, c'est un site qui s'appelle 7niveauxdewikipedia.com. Depuis n'importe quelle page, on arrive sur n'importe quelle page. Donc là, depuis les UID, en une, trois rebonds, on arrive au marxisme. C'est allé un peu vite, hein, puisqu'on va à peu près où on veut en 7 niveaux de Wikipédia. Vas-y, next. J'ai exposé sur mon site une interface. Donc, si on va sur la page d'un UID, on va sur le site slash UID, on tombe sur les infos, le commentaire et le décodage quand c'est décodable. J'ai aussi mis, donc ce n'est pas lisible, une interface pour que ce ne soit pas une belle page web lisible pour un humain qui soit affichée, mais du code interprétable par un ordinateur. Ce qui va me permettre à moi d'automatiser mon travail de reconnaissance des UID dans des fichiers de log que j'aurai sur une machine qui est en fait une scène de crime. Je chope tous les UID, je les envoie, j'ai la réponse. Tout le monde peut participer, cocher des trucs. Je ne vais pas le faire parce que ça veut dire que si moi je tombe sur un UID qui a été tiré par un auteur de malware, que 3 mois plus tard, on se dit oui, celui-là, c'est tel virus important, genre Turla, il est dans ma base de données, ils utilisent un UID spécial. Si j'avais fait fuiter en avance que moi j'étais en train de le voir, ce numéro-là, ça aurait eu des conséquences sur le processus de réponse sur incident. Donc je fais bien attention à ne pas mettre de choses sensibles sur Internet, mais j'en mets plein quand ça ne me concerne pas. Donc je mets Turla, je mets plein de virus qui ont été publiquement documentés maintenant. Vas-y, next. Voilà, je ne mets pas de choses sensibles dans mes slides, et de toute façon, je n'ai rien à vous raconter de sensible, c'est un piège. C'est juste que je pense que je vais pouvoir faire en sorte que ce genre de choses, si l'interface est utilisable, si j'arrive à faire un plugin IDA Pro ou une interface de programmation, tout le monde n'aura pas envie de soumettre à mon site leurs UID dans le cadre où c'est secret, où c'est lié à de la réponse sur incident. Donc tout le monde voudra peut-être lancer ça chez soi et garder ses petits numéros chez soi, on va voir. Mais je me dis que je pourrais interopérer ça avec MISP ou que sais-je. Vas-y, next. Voilà, avez-vous des questions? Vas-y, next. Tac. Je vous écoute. J'ai un micro. J'ai 2 micros, du coup on peut se poser des questions. Mais ça va arriver, nickel.
J'ai une, on va être assez technique dans ce cas-là, puisque c'est très technique.
Allons-y.
De mémoire, un bon identifiant est quelque chose qui est aléatoire, qui est non significatif. Donc l'UID n'est pas vraiment un bon identifiant, puisqu'il n'est pas totalement aléatoire.
Les V4, ils contiennent 2 puissance 128 bits, enfin ils contiennent 128 bits d'entropie, parce qu'ils font 128 bits moins le 4 pour dire que c'est la version 4, et la variante pour dire qu'on respecte la spec. Ça te fait au moins, je pense, 120 bits d'entropie, ce qui est bien assez aléatoire pour être unique. Il y a des gars sur Internet qui disent « Nous, on en tire tellement par seconde qu'on a des collisions. » Pas de chance. Mais un UID V4, c'est le bon standard pour avoir des choses uniques et dont tu as la garantie que tu n'en auras pas deux pareil. Enfin, unique, quoi. Est-ce que les numéros de carte bancaire ont des UID? Alors, les numéros de carte bancaire, c'est un espace fini. On a un nombre de numéros fixes. Et donc, toutes correspondent à un nombre. Et les UID aussi. Les UID, c'est des nombres, comme c'est fait avec 128 bits, c'est entre 0 et 2 puissance 128. Tu te rappelles peut-être de la slide sur les OID qui sont un numéro, point autre chose, point autre chose. Tu peux convertir un nombre, tu peux convertir la représentation d'un nombre en la représentation de ce même nombre dans un autre ensemble. Par exemple, 10 en hexadécimal, c'est 0xA. Et bah, ton numéro de carte bleue, il est écrit en décimal sur ta carte bleue. Tu peux l'écrire en hexadécimal si ça te fait plaisir. Et il se trouve que si tu l'écris en hexadécimal et que tu complètes pour avoir les 16 caractères correspondants, tu as un truc qui ressemble à un UID. Sur un malentendu, tu n'auras pas un 1, 2, 3 ou 4 ou 5 où il faut pour dire que ça respecte une certaine version. Donc tu vas pouvoir mettre un espace et dire c'est bon, c'est à moi. Tu peux mettre une version 6, dire hé les gars, j'ai une idée, on va me tirer des numéros, des UID pour les cartes bleues. Donc le numéro de carte bleue est un nombre, l'UID est un nombre. Les deux sont équivalents, on peut trouver une fonction de transformation. Est-ce qu'il existe un moyen de vérifier qu'un UID est vraiment unique ? Eh bien, est-ce que 10 est unique ? Oui. C'est-à-dire que tous les numéros sont forcément uniques. De 0 à 2 puissance 128, tu auras beau tirer 145. Tu ne peux pas vérifier que 145 est unique. Ta question, elle veut dire, est-ce que j'ai un moyen de savoir si d'autres gens se servent du même numéro que moi ? Et du coup, là, ça revient à se dire, mais est-ce qu'il y a d'autres gens qui servent de 145 ? Alors, 145, c'est tout petit. C'est pour ça qu'on a pris des nombres super grands et qu'on avait mis une carte réseau, l'heure, comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas d'autres gens qui s'en servent. Si tu veux être sûr que personne a tiré le même que toi, utilise un UID V1 qui contient ta carte réseau où tu peux tirer un truc à toi. Au lieu de mettre ta carte réseau, tu es sûr d'en avoir des uniques. Mais non, comme il n'y a pas d'autorité globale, tu ne peux pas savoir après. L'UID 0, celui qui est nul là, il décrit énormément de choses. Il y a plein de programmes, de spécifications qu'on dit en cas de pépin, tu mets 0. Genre DCE, RPC, la méthode pour appeler des fonctions sur Windows. 0, c'est inconnu. C'est aussi le version 0 dans la spécification et ça correspond à d'autres choses dans d'autres systèmes. Donc le même numéro a plusieurs usages et ça, tu pourras jamais rien faire contre. Le fait que j'arrive à retrouver des choses logiques sur un UID prouve qu'il sert à ça. Oui, le fait que moi, en allant chercher plus tard un numéro au hasard sur Internet, je tombe sur le fichier source de Windows ou de Samba qui dit ça, ça sert exactement à ça, ça me permet de déduire que ça a beau être un numéro tiré à peu près au pif, on s'est quand même tous mis d'accord pour que 125 453 003, ça soit cette fonction-là, ça soit ouvrir un partage réseau, fermer un fichier, ça corresponde à un hash, que sais-je. Donc oui, t'as beau pas être certain qu'ils sont uniques et que personne d'autre ne s'en sert pour autre chose, t'es capable de retrouver l'utilisation qui est faite d'un numéro particulier, comme une plaque d'immatriculation, ou Pauline, ou Place de la Mairie. Place de la Mairie, t'es à peu près certain qu'il y en a plusieurs, mais dans ton bled, t'es certain que t'en as qu'une. Sauf dans le cadre des agglos, mais bon, ça c'est une autre question.
Petite question. Est-ce qu'il se génère automatiquement ? C'est-à-dire que chaque création de fichier que je fais, par exemple, sur mon Mac, vont générer un UID, donc du coup, créer une sorte de phéromone numérique qui me rendra traçable.
Alors, phéromone numérique qui te rendra traçable ? Oui. C'est pour ça que j'ai fait ça, entre autres. C'est pas uniquement pour savoir quelles étaient les fonctions utilisées, parce que ça, c'est fixe. Une fois que tu as écrit un standard, que tu dis la fonction temps, elle s'appelle UID temps, tu es certain, comme l'affaire des sextoys, pour les gens qui rentrent dans la salle, qui se disent oh, zut, on a raté un truc cool. Bon, c'est sûrement un peu trop loin, mais j'ai oublié la question. Est-ce qu'on en génère, est-ce qu'on a des phéromones numériques ? Oui, l'auteur du malware Melissa, il a été arrêté parce qu'il a généré des UID à l'insu de son plein gré, hein, comme disait un grand philosophe. Il a je sais pas pourquoi je fais ça, il a généré des UID et ça l'a mené en prison parce que son PC contenait son adresse réseau. Aujourd'hui, nous, on en génère, si on utilise Windows, dans les fichiers liens, les fichiers .lnk qu'on crée, et ils contiennent un UID V1 qui contient l'adresse MAC et l'heure. Dans les fichiers Word, dès lors qu'on génère un fichier Word qui contient des sous-éléments XML, dès lors qu'on fait des trucs un peu fun, genre créer un nouveau style ou embarquer une image, un truc un peu stone, ça provoque la création d'un UID. On pourrait se dire, les gars de chez Microsoft, ils font attention à la vie privée, ils vont mettre des UID V4. Et dans les fichiers LNK, c'est des UID V1, et je pense pas que ce soit des UID V4 un peu partout. Voilà, donc oui, on génère des phéromones de traçabilité dans les UID, et non, j'ai pas fait de liste complète des endroits où on en génère, mais il y en a plein.
Petite question du coup, est-ce qu'il y a des petits programmes qui peuvent les repérer pour les effacer
Les repérer pour les effacer. Ouais. Faudrait savoir où ils sont, comment ils sont générés ou quoi. Dans le cadre des fichiers Word, il y a MAT, Metadata Anonymization Toolkit. C'est un petit programme pour différentes raisons. Il marche que sur Linux. C'est le bordel à porter sur Windows. J'avais essayé. Non mais oh. Il prend toutes les métadonnées qu'il y a dans un fichier et il les efface. Ce que je ne sais pas, c'est s'il considère un UID comme une métadonnée. Parce que si tu mets dans les propriétés du document ton nom, Marcel Duchamp, et que tu le passes à Matt, Matt il va savoir que la propriété prénom, c'est une métadonnée, on efface. Par contre, comme les UID ils sont propres à la structure du document, je ne sais pas s'ils sont changés au hasard. Parce que tu as des choses, tu n'as pas envie qu'ils changent. Genre l'UID qui décrit le thème utilisé, si c'est bleu ou rouge ou quoi, celui-là, si tu le changes, parce que tu ne savais pas que c'était un truc de chez Microsoft et que tu pensais que c'était un truc généré par le gars et qu'il allait se faire arrêter à cause de ça, tu pourrais péter le document. Donc c'est une question complexe que de savoir qu'est-ce qu'est un UID généré par toi ou pas. La meilleure chose à faire, ce serait de patcher les bibliothèques de code qui génèrent des UID pour être sûr que ce soit que du 4 et que du aléatoire. Il y avait une question par là-bas. Ça a été posé. Oui. Peut-on anonymiser du PDF ? Dans PDF, si on fait autre chose que simplement du texte, si on le génère avec la suite Adobe par exemple, il y a, comme on dit élégamment en anglais, une shitload d'UID qui sont embarqués dedans. À chaque fois qu'on fait une modification, j'avais fait ça sur les PDF sortis par le gouvernement, dès lors qu'on édite un PDF dans la suite Adobe, que sais-je, ça enregistre dans les métadonnées, dans un fichier XML qui est embarqué dans le PDF, édité à telle heure, changé à telle heure, on a chargé tel modèle à telle heure, et quand on charge tel modèle, donc genre on ajoute un logo, ça ajoute l'UID du modèle qui est mis dedans. Donc de un, on a les UID dans les PDF des sous-documents qui ont été embarqués, ce qui est sympa. De deux, PDF, quand c'est généré par Adobe, ils embarquent carrément l'heure à laquelle c'est fait. Ce qui fait que je ne sais plus quel PDF qui était sorti. Oui, c'était les tracts anti-Adopi là, avec les gosses qui sortent des séries Tue-moi à gage et ce genre de trucs. Ils avaient passé 2 mois avant à les réécrire, changer sur des horaires de bureau. J'avais fait la même affaire. Donc PDF, c'est rempli du ID et pas seulement quand c'est du Adobe. Voilà, il faut le passer dans Math, il faut le passer dans PDFTK, dans Lib Poplar, et à la fin, c'est plus lisible. Et je ne sais pas du tout quelle heure il est, mais je pense qu'on va pouvoir dire merci à tous.